Donc, tout d'abord, nous sommes absolument ravis de vous avoir ce soir. Je vais laisser la parole à notre vice-président, Patrick.
Oui, juste pour vous dire un petit mot, pour ceux qui ont l'habitude de venir ici, vous aurez peut-être remarqué que ce soir, notre présidente, Marie-France Canot, est absente. Elle est hospitalisée depuis quelques jours et nous lui souhaitons de tout cœur qu'elle soit bientôt parmi nous. Et puis, bon, j'ajoute, comme d'habitude, à la fin de la séance, il y aura un pot dans la salle d'à côté où vous êtes tous conviés pour faire connaissance, continuer les discussions, etc. Et ce soir, c'est donc Florence Lacroix, professeure de philosophie de terre qui va officier, comme vous expliquez les règles du jeu pour ceux qui ne connaissent pas.
Oui, voilà. Donc en fait, on est trois à animer le Café Philo. Donc Nicolas Déré, qui enseigne à Janzay, et Sylvain Teuil, voilà, qui a animé le dernier Café Philo et qui est aussi enseignant ici. Est-ce qu'il y a de nouveaux participants ou participantes au Café Philo? D'accord, bah bienvenue. Alors je vous rappelle juste les règles. On va débuter en proposant des sujets, en fait. Hein, voilà. Donc vous pouvez proposer autant de sujets que vous le désirez. Une fois que la proposition des sujets est clos, nous passons au vote. Là encore, vous pouvez voter pour autant de sujets que vous le désirez. Le sujet qui aura remporté la majorité sera le sujet traité ce soir. Si jamais il y a des ex-échos, ce qui arrive parfois, on reprend le vote, mais là on ne pourra voter qu'une seule fois. Voilà. Et puis ensuite, c'est parti pour le Café Philo jusqu'à 20h30. Alors, nous débutons. Si vous voulez proposer un sujet, vous avez juste à lever la main. Patrick et Daniel se proposeront pour vous passer le micro. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des sujets? Ça coupe un peu, j'ai l'impression. J'espère que ça ira bien. Voilà. Est-ce que vous avez des sujets à proposer? Oui, monsieur.
L'avenir des enfants.
L'avenir des enfants. D'accord. Alors, c'est bien de parler dans le micro pour une raison très simple, c'est qu'en fait, les cafés philo sont enregistrés et ça permet aux gens ensuite de les réécouter en podcast. Voilà, c'est juste la chose. Donc, premier sujet, l'avenir des enfants. L'avenir de nos enfants. Ce serait ça, la question?
Non, pas uniquement.
Pas uniquement, l'avenir des enfants. D'accord. Ok. Oui.
Féminisme et masculinité sont-ils incompatibles?
D'accord. Féminisme et masculinité sont-ils incompatibles?
Alors, est-ce que consommer nous amène vers le bonheur?
Est-ce que consommer nous amène vers le bonheur?
Toute tradition est incontestable.
Toute tradition est-elle contestable? Quel est le siège de la conscience? Ok, quel est le siège de la conscience? Ouais. Attention à peut-être pas trop tomber dans les neurosciences, parce que là, je joue mon joker. Oui.
Le couple a-t-il encore un avenir?
Ah, le couple a-t-il encore un avenir? Alors, pour ceux qui n'étaient pas là, nous en sommes à la troisième proposition. À chaque fois, il a fait son polydor. Il est arrivé en second temps. On va voir. Donc, c'est bon.
Nous vivons dans un monde étrange où nous assistons impuissants à l'effondrement crescendo de l'humanité et de la nature.
est un sujet qui ne peut que nous concerner et nous intéresser ce soir.
D'accord. Alors peut-être pour le formuler très simplement, pour voter, et s'il est choisi, on vous redonnera la parole, on peut mettre l'écologie.
Que la nature ? Plutôt que la nature ?
Non, pour l'ensemble.
Ah, mettre juste l'écologie ?
Oui, pour voter.
Non.
Alors, qu'est-ce que vous préfériez ? Juste à quelque chose de plus synthétique. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre alors ? Est-ce que vous pouvez la relire, votre proposition ?
Nous sommes aujourd'hui impuissants face à l'effondrement crescendo de l'humanité et de la nature.
Oui. Et ensuite, vous allez...
J'ai résumé.
Ah, d'accord. Alors, on peut dire effondrement de l'humanité et de la nature.
Oui, mais le fait que nous soyons impuissants...
Sommes-nous impuissants face à l'effondrement de l'humanité et de la nature ?
Ok.
Sommes-nous impuissants face à l'effondrement... Sommes-nous impuissants face à l'effondrement de l'humanité et de la nature, de l'humanité et de la nature. Hein? Ouais. Et donc il y aurait un second sujet.
Oui. C'est une phrase de Jean-Paul Sartre. Quand les riches se font la guerre, ce sont les pauvres qui meurent.
Voilà. Quand les riches se font la guerre,
ce sont les pauvres qui meurent.
Ce sont les pauvres qui meurent. Quand les riches se font la guerre, ce sont les pauvres qui meurent. Oui ?
J'attendais que tu aies fini de noter.
C'est bon, je crois. Oui.
Le développement personnel participe-t-il au déclin d'un monde commun ?
Le développement personnel participe-t-il au déclin du monde commun ? C'est ça ? D'accord. Donc le développement personnel participe-t-il au déclin du monde commun ?
D'accord. L'application de la laïcité tous les jours.
Application de la laïcité tous les jours. D'accord. Avec on reste sur une forme affirmative.
Comment?
On reste sur une forme affirmative ou on pose une question?
Non, c'est une question que je pose.
Alors applique-t-on la laïcité tous les jours ? Ouais.
La difficulté d'appliquer la laïcité tous les jours.
D'accord. Alors, quelles sont les difficultés à appliquer la laïcité tous les jours ? Ça irait. Ouais. Quelles sont les difficultés ? À appliquer la laïcité tous les jours.
Et là, on a déjà 10 sujets.
10 sujets. Et donc, monsieur ? Oui.
Oui, alors, la souffrance a-t-elle un sens ?
D'accord. La souffrance a-t-elle un sens ? On l'a fait quand ?
Ouais, bien. Là.
La souffrance a-t-elle un sens ? C'est bon pour tout le monde ? Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on relise les sujets, et puis ensuite, on passera au vote.
Alors, premier sujet, l'avenir des enfants. Deuxième, féminisme et masculinité sont-ils incompatibles ? Est-ce que consommer nous amène vers le bonheur ? Toute tradition est-elle contestable ? Quel est le siège de la conscience ? Le couple a-t-il encore un avenir ? Sommes-nous impuissants face à l'effondrement de l'humanité et de la nature ? Quand les riches se font la guerre, ce sont les pauvres qui meurent. Le développement personnel participe-t-il au déclin du monde commun? Quelles sont les difficultés à appliquer la laïcité tous les jours? Et la souffrance a-t-elle un sens?
Premier sujet. Donc,
premier sujet, l'avenir des enfants.
L'avenir des enfants.
Deuxième sujet, féminisme et masculinité sont-ils incompatibles? Est-ce que consommer nous amène vers le bonheur?
Consommer nous amène vers le bonheur.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
Toute tradition est-elle contestable?
Vingt-huit.
Quel est le siège de la conscience?
1, 2, 3, 4, 5.
Le couple a-t-il encore un avenir?
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36.
Ensuite, sommes-nous impuissants face à l'effondrement de l'humanité et de la nature? Quand les riches se font la guerre, ce sont les pauvres qui meurent. Personnel participe-t-il au déclin du monde commun?
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23.
Quelles sont les difficultés à appliquer la laïcité tous les jours?
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.
Et dernier sujet, la souffrance a-t-elle un sens ?
Donc,
pour Francis Bois, effectivement, hein, le couple a-t-il encore un avenir ? Voilà, enfin, nous allons savoir. Alors, qui a proposé ce sujet avec persévérance ?
Comme quoi la persévérance,
exactement.
Mais il n'y avait pas loin derrière, à 31, il y avait quand même le féminisme et la masculinité sont-ils incompatibles ? Donc ça se rejoint. Hein.
Peut-être.
Alors pourquoi un tel sujet ?
Parce que j'ai l'impression, quand je regarde le monde autour de moi, les couples autour de moi, la manière dont on présente le couple dans les médias modernes, sur les réseaux sociaux, j'ai l'impression que le couple est une idée un peu qui tombe en désuétude. Le couple, on va dire, hétéronormé, simple, classique, comme on l'entendait depuis très longtemps. Donc je serais curieuse notamment d'avoir l'avis des jeunes sur leur vision du couple et savoir si un homme, une femme, point barre, c'est encore possible de nos jours. Et ben voilà, la réflexion est lancée. Le couple a-t-il encore un avenir ? Non. Bonsoir. Alors, comme je savais qu'Élodie allait représenter les sujets, j'ai pensé un peu dessus, une petite chose à dire. Donc, en fait, au départ, le modèle du couple tel qu'on l'a connu, hein, si on s'en va sur les générations précédentes, parce que là, maintenant, c'est quand même un peu différent, il y avait donc un homme et une femme qui se mettaient ensemble et qui vivaient jusqu'à la fin de leur jour ensemble. Après, effectivement, les choses ont évolué au niveau culturel et sociétal. Et l'égalité des sexes et l'émancipation des femmes, je pense, ont contribué à ce que ce couple traditionnel soit en déclin. Donc ça, c'est une première chose. Après, je vous fais une race des statistiques que je suis allée chercher sur les mariages, les divorces, les séparations. Parce qu'en fait, effectivement, c'est assez impressionnant. Je crois que... Alors, dans la population, au jour d'aujourd'hui, il y a 8% des couples qui sont pacsés. 72% sont mariés et 20% sont en union libre. Sachant qu'ensuite, il y a quand même au niveau des divorces, effectivement, je crois... pas tout à fait la moitié, mais quand même pas mal, effectivement, qui ensuite se séparent. Excusez-moi, je suis un peu émue, donc j'ai du mal à lire mes notes. Donc le couple aujourd'hui est fondé sur des valeurs de liberté, de complicité et de soutien mutuel. Ce qui sont des valeurs complètement assez nouvelles. Et le couple est mis à l'épreuve dans la durée. C'est un travail constant, en fait, une évolution et un ajustement constant. La durée est conditionnée par la capacité à gérer les conflits. Ça, ce sont mes réflexions personnelles. Parce que je pense qu'effectivement, le couple, c'est une opportunité d'évolution personnelle qui est très importante. Mais il faut que ce soit posé sur des bases, d'entente et d'accord dans cette optique-là. Mm-hmm. Voilà. Est-ce que j'ai encore des choses à dire Et puis, effectivement, le couple aujourd'hui répond aux angoisses qui sont liées à la condition humaine, et notamment la solitude, en fait. Après, j'ai noté que dans un couple, il doit y avoir respect, liberté et amour. Et après, j'ai terminé par une question, alors peut-être qu'on revient au début, parce qu'à un moment, je me suis dit, mais qu'est-ce qui fait que deux personnes vont se mettre en couple?
Et voilà.
J'ai fini. Voilà. Merci.
Alors, je reprends la question. Qu'est-ce qui fait que deux personnes se mettent en couple?
C'est l'amour, bien sûr. La personne qui se met en couple, il y a aussi le concept de désir attachement qui crée cette pulsion amoureuse et sexuelle aussi. Mais ce qui tient le couple, c'est l'amour. Et après, quelque part, quand un couple qui tient, il y a un certain respect, une certaine éthique aussi. Parce que il y a aussi quelque chose qui, même s'il y a l'amour et une espèce de désir, un attachement, mais le couple, il peut exploser. Après, je parle, je laisse à faire bondir, mais peut-être plus une pulsion, l'homme a peut-être un peu plus tendance à, disons, à, comment on peut dire ça,
papillonner
un petit peu plus. Et qu'est-ce qu'il peut retenir à part son grand amour pour sa compagne? Bon, ça c'est une chose, mais il y a aussi un respect et puis une espèce d'éthique qui le retient à... Parce que sinon on suivrait ses pulsions, on aurait vraiment tendance, surtout en tant qu'homme, à vouloir papillonner.
Mmh. Ouais. Alors peut-être déjà première remarque, juste ce qui tient le couple, c'est l'amour. Oui.
La première, c'est on parle du couple attiré encore en avenir, et vous avez parlé de l'amour, donc qui est le socle du couple pour vous. Qu'est-ce que ça veut dire l'amour aujourd'hui? On pourrait s'intéresser à ce que ça veut dire à l'ère des réseaux sociaux aussi, notamment. Aussi, moi je crois que l'amour, c'est un mélange d'admiration, d'affection et d'attirance, qui sont trois spectres bien définis, et je pense que celui qui est primordial pour distinguer un amour d'une amitié, ça va être celui de l'attirance. Mais aussi, ça pose la question, si je vais un peu plus loin dans mon raisonnement, le couple en lui-même. Monsieur parlait là-bas de la fidélité. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que être un peu libertin, c'est pas être fidèle? Moi je pense que aimer c'est pas forcément la fidélité, et être avec une seule personne toute sa vie, mais c'est faire des expériences en étant dans le respect de l'autre, et bien sûr il faut qu'il y ait une compréhension mutuelle et qu'on puisse et que chacun soit au clair sur ce qui est possible ou pas. Et j'aimerais faire une dernière petite réflexion. Vous avez donné les chiffres des divorces des couples hétérosexuels qui sont à 50%, celui des couples homosexuels est de 14%. Donc on montre bien que quand on est uni par des mêmes difficultés, quand on se comprend à travers des problèmes qu'on rencontre dans la vie de tous les jours, on est bien plus unis.
Bonsoir. Je voulais aborder l'aspect un peu socio-normé de la vision du couple. Parce qu'on aborde la question comme quelque chose de naturel, mon couple, alors qu'il est fabriqué, en fait, c'est une notion normative que je voulais interroger déjà. On a parlé de être accompagnée jusqu'à la fin de ses jours, voilà, est-ce que ça devient un peu une assurance solitude, une assurance d'essai, enfin, est-ce que c'est un confort? Quelles autres formes en fait de relations pourraient exister si on essaye un peu de s'interroger en sortant du cadre normatif social du couple? Et je pense que il y a des aspects de pression effectivement socioculturels pour le couple et aussi aujourd'hui contre le couple, c'est-à-dire que la société marchande marketing a plus intérêt pour certains aspects de commercialisation, certains segments de d'abord consommateurs, donc on prône un peu la liberté, changer, on prend les objets, on les change, comme on change de couple, comme on change de chemise. Et donc la société impose un peu la norme du couple avec des enfants et aussi les aspects de société de consommation qui imposent d'autres valeurs, mais tout ça c'est des constructions sociales. Mm-hmm.
Oui. Donc le couple comme construction sociale, hein, tout à fait. Mm-hmm. Pour quelles raisons se met-on en couple? Je crois que la question, elle est vraiment importante.
Allô, Maxime. Donc, moi, la première notion que je voulais introduire, c'est la possibilité financière. Donc, la deuxième intervenante a commencé là-dessus. Moi, j'ai le souvenir de ma grand-mère... qui a resté toute sa vie avec mon grand-père, mais qui était fondamentalement malheureuse, parce qu'il était alcoolique, et si elle avait pu, elle serait partie, évidemment. Et donc c'est flagrant, c'est l'émancipation et le travail des femmes qui a fait que le modèle de couple change, ça c'est la première idée. Et la deuxième, c'est l'offre et la demande, c'est un peu de l'économie, mais... ça vient un peu sur la consommation, c'était mon sujet. Mais c'est une réalité, c'est-à-dire qu'à un moment, à une époque, dans la campagne ou ailleurs, on n'avait pas beaucoup de possibilités de tromper. Aujourd'hui, avec les applis, ça n'a jamais été aussi facile. C'est-à-dire qu'il y a même un site qui s'appelle Gliden, qui est un site spécialisé pour les rencontres extra-conjugales, qui font de la publicité dans le métro. C'est totalement, je dirais... désacralisé, voilà. Donc c'est aussi ça, c'est parce qu'il y a aussi plus la possibilité, et la dernière notion, c'est le petit espion qu'on a tous dans la poche, qui fait que le couple a du plomb dans l'aile par rapport à des choses qui étaient plus discrètes aussi à une époque.
Voilà. Je vous laisse vous exprimer.
Moi, je rebondis sur le travail des femmes, sur le féminisme. C'est faire porter aux femmes le poids du fait que le couple peut s'effondrer. Or, dites-moi une période dans toute l'histoire où la femme n'a pas travaillé. La femme a toujours travaillé. Elle a toujours soit secondé son mari, soit elle a travaillé pour elle, pour faire survivre sa famille. Donc déjà... Déjà, la femme n'est pas responsable en elle-même du fait que le couple s'effondre. D'un autre côté, on se met en couple pour un intérêt commun. Il n'y a pas que couple homme-femme, homme-homme. On a aussi des couples bi, des couples... Et ça a toujours existé aussi. Les couples homo ont toujours existé. Les couples, le fait que les hommes ou les femmes se trompent, ça a toujours existé. Je veux dire, il y a nos grands rois qui ont toujours eu des maîtresses. On a autour de nous énormément d'exemples de couples, ben forcément, où on allait voir à droite à gauche. Donc, je pense qu'il faut aussi se dire que ben, le couple change. Peut-être que notre vision va changer aussi. Le couple change, on accepte beaucoup plus des couples qui sont hors normes, comme on disait avant, mais pour moi c'est la norme. les couples homo, les couples libertins, les couples du week-end, les couples voilà, qui se permettent aussi d'avoir un intérêt qui est autre que fonder une famille, que d'avoir des enfants, que de se tenir la main jusqu'à ce que l'un des deux meure. Voilà, pour moi, le couple, c'est en fonction de cet intérêt qui est important de voir.
Alors, ce qui est intéressant, il me semble, c'est de voir que le mot couple, en fait, il recouvre déjà un ensemble de réalités qui n'est pas semblable. Couple, ça veut dire être deux. Alors, quelle est la raison pour laquelle on est deux? Soit c'est parce qu'on s'est choisi, c'est-à-dire effectivement, il y a de l'amour, il y a de l'affectif, et on ne passe pas nécessairement par la logique institutionnelle. Mais c'est vrai que quand on dit couple, on entend aussi ce qui est l'objet du mariage, c'est-à-dire qui relève de cette institution. Et c'est intéressant d'aller voir ce qu'est le mariage, parce que lorsque l'on se marie, en fait, on signe un contrat. Voilà. Donc il y a quelque chose de l'ordre du social, de l'ordre du normatif. Là, le couple, il est institué. Il est institué, il a ses règles sociales. La règle sociale, c'est que le mariage, logiquement, il avait lieu entre un homme et une femme, et il avait essentiellement lieu au départ pour le patrimoine, c'est-à-dire pour permettre justement de transférer le capital aux enfants, le patrimoine aux enfants, et pas nécessairement parce que les gens s'appréciaient. C'est pourquoi la majorité des mariages, très longtemps, ont été des mariages arrangés. Donc, les femmes pouvaient travailler au Moyen-Âge, on l'oublie, elles possédaient leur patrimoine, et le patrimoine était transféré directement aux enfants. Ça n'était pas transféré au mari. C'est à partir du moment où il y a eu la loi des mâles qu'effectivement, les femmes ont quand même perdu leur indépendance financière et leur indépendance, en fait, civile. Et là, le mariage est devenu une nécessité pour les femmes. Voilà. Et leur patrimoine appartenait au conjoint. Donc, effectivement, la femme était totalement dépendante et comme le divorce ne se faisait pas, parce qu'il faut dire ça aussi, on ne divorçait pas, donc les femmes restaient en couple et les maris faisaient à peu près ce qu'ils voulaient, comme les reines de France du reste. Hein. Voilà. Chose extraordinaire à la Révolution française, tout d'un coup va naître l'idée qu'on peut divorcer. Voilà, ça ne va pas durer longtemps, hein. Voilà, hein. Mais ça va durer quand même suffisamment longtemps pour que ça nous marque. Dès que le divorce a été rendu possible, mais c'était des files devant les tribunaux, justement, des files de couple pour divorcer, quoi. Et la majorité du temps, d'un commun accord, c'est ça qui est intéressant quand même. Voilà, les deux voulaient se séparer. Parce que l'idée nouvelle est en train de naître, on rentre quand même dans le romantisme, que le couple, il se choisit. Voilà, on se choisit pour vivre ensemble, et on va vivre ensemble parce qu'on s'aime. Voilà. Est-ce qu'on vit ensemble parce qu'on s'aime lorsqu'on se marie? Ou est-ce qu'on vit ensemble parce que peut-être qu'on s'aime, c'est nouveau, mais c'est aussi parce qu'on a intérêt à être ensemble? Ce qui fait qu'à partir de là, c'est peut-être très facile de tomber amoureux, mais c'est peut-être pas facile du tout de vivre en couple, c'est-à-dire de rester, c'est-à-dire de surmonter les conflits, c'est-à-dire, osons le dire, de se supporter. Il faut se supporter. Voilà. Qu'est-ce qui fait qu'on va supporter l'autre? Qu'est-ce qui fait qu'on va accepter l'autre dans ses défauts? Qu'est-ce qui fait peut-être que le couple, encore aujourd'hui, l'air de rien, on y croit, parce qu'on change peut-être de partenaire. Mais moi, ce que je remarque, c'est qu'on change de partenaire. On quitte un couple pour aller vers un autre couple. Ah, qu'est-ce qui nous tient à ce point dans le couple?
Bonsoir. Pas vraiment de questions, mais quelques remarques avec des choses qui ont déjà été plus ou moins dites. D'abord sur l'aspect historique, donc ça a été très cadré au départ sur un couple, les deux mêmes individus pour la vie, un homme et une femme, et pas un homme qui a avant été une femme avec une femme qui a avant été un homme, par exemple.
Mais voilà, il y a plein de possibilités. D'un point de vue historique, ça serait intéressant, parce que genre, on discute sur les 2000 dernières années à peu près. Je suis pas sûr que ça ait toujours été comme ça. J'ai pas de compétences pour répondre à cette question-là, mais ça serait intéressant. C'est pas beaucoup de nuances sur l'histoire de l'humanité. Ce serait intéressant de savoir, d'avoir un peu plus de recul. Déjà. Après sur le pourquoi le pourquoi du couple, vous l'avez abordé juste avant. Il y a forcément un intérêt. Donc il y a des éléments qui ont été cités comme l'amour, des choses comme ça. Mais il y a aussi un intérêt parce que à deux on est plus fort aussi. On peut faire des choses qu'on ne pourrait pas faire tout seul. Évidemment si on arrive à s'entendre. Et puis sur le fait que ce soit pour la vie. Ça peut être aussi pour la vie de maintenant, c'est pas forcément pour la vie jusqu'à la mort, et comme vous disiez, on peut être en couple et puis partir sur d'autres couples, et dans ce sens-là, le couple a toujours un avenir, même si c'est pas toujours les deux mêmes individus jusqu'au bout. Et à ce sujet, sur les statistiques, ça serait peut-être intéressant de savoir finalement s'il y a une évolution dans les personnes qui vivent en couple, mais en couple de façon générale, c'est-à-dire deux individus ensemble, quelle que soit la durée sur laquelle ils restent ensemble.
Pour moi, il y a trois raisons d'être en couple ou de rester en couple. La première, c'est juste par amour, quoi, pas trop d'explications. Enfin, voilà. La deuxième, c'est pour se donner un sens à sa vie. Et j'ai oublié la troisième. Mais...
Les deux premières sont déjà bien. Hein. Ouais. Est-ce que la troisième, ça serait quand même un intérêt matériel?
En fait, j'ai complètement oublié.
Les enfants. Oui, les enfants.
Merci. Je pense qu'on n'a pas cité aussi ce qui fait que ça tient moins ou autrement, c'est la longévité. On vit beaucoup plus longtemps, et beaucoup plus longtemps et en meilleure santé. Je pense que c'est une des raisons aussi qui fait que le couple voit du plomb dans l'aile ou change. Et alors, deuxième chose, c'est un constat de grands écarts entre les pratiques sociales, en fait, c'est ce qui a été dit, très hétérogène, et en même temps cet archétype de l'âme sœur, de l'unité, de la fusion, qui demeure très présent sous de nombreuses formes, en fait, et qui est un invariant. Et en même temps, on le voit partout, hein, la publicité, le cinéma, la littérature, etc. Et puis en même temps, une réalité de pratique sociale très différente. Et je pense que ce décalage peut être aussi source de souffrance. Parce qu'il y a toujours cet idéal qui demeure quelque part.
Oui, le décalage entre l'idéal et le réel, quoi. Hein, ce qu'on se figure être l'amour et puis ce que l'on vit. Au quotidien, dans une relation amoureuse. C'est ça, hein? Ouais.
Oui, merci. Moi, il me semble que pourquoi on se met en couple, pour la survie de l'espèce aussi.
Ah ouais.
Il faut, à un moment donné, chez les mammifères, il faut qu'un mâle et une femelle se rencontrent pour avoir des enfants. Pas d'avenir de l'humanité sans un minimum de couple. Et je vais apporter un petit élément que j'ai lu chez Bermalayir, mais je parle sous le contrôle des éthologues et des anthropologues dans la salle. Il semblerait que, dans l'ensemble des espèces vivantes, plus les petits sont dépendants longtemps, sont vulnérables dans leur enfance, et plus les adultes sont monogames. Voilà, donc l'espèce humaine étant... les enfants humains étant très vulnérables, très longtemps et très dépendants, ça, c'est relativement logique que l'humanité aille vers la monogamie. pour compléter les statistiques qui avaient été données au départ, j'avais lu que l'an dernier, ou il y a deux ans, je crois, il y avait eu 240 000 mariages pour 200 000 PACS.
Après, oui, c'est une autre façon de se lier, mais les gens se lient. Oui.
Sachant que je ne sais pas si des fois les gens se paxent et après ils peuvent se marier.
Si le pax peut évoluer vers un mariage ou rester pax. Ouais.
Bonsoir. Alors, je parle en ma qualité de jeune lycéenne, donc je ne connais absolument rien. Mais je pense que c'est tout d'abord, en tout cas pour moi, une forte idéalisation totale de l'amour. Comme relevé la dame tout à l'heure, c'est pris avec les films, avec les livres, etc. C'est pris, c'est idéalisé. J'ai une image qui m'est revenue en tête, c'est une vieille histoire qu'on m'a racontée il y a très longtemps. C'est la comptine. En fait, c'était qu'à la base, c'était un seul homme, et il s'est passé quelque chose, il y avait un orage, etc., et l'homme s'est déchiré en deux. Et donc, depuis le début en fait, de l'humanité, le but premier de l'homme et de notre espèce, c'est de trouver sa moitié. Donc voilà, c'est très idéalisé comme image, mais donc je ne sais pas si le couple a un avenir, mais j'aimerais croire que l'amour, lui, oui, et qu'il est éternel. Donc par exemple, après une rupture amoureuse, on a l'impression d'être effondré et tout, mais est-ce que c'était vraiment de l'amour si ça n'a pas duré? Donc on pourrait se poser la question. Mais je pense qu'effectivement, en plus dans notre société, ça devient une obligation de trouver cette âme sœur avec qui on passe la vie. Mais en tout cas, moi j'aimerais croire que l'amour est éternel et qu'on aime vraiment une seule personne. Et que tout ce qui se passe avant, c'est des expériences. Et il faut que ça se passe parce que sinon, on n'évolue pas. Mais c'est ce que j'aimerais croire. Et ça, je pense que malgré les époques, si c'est vraiment ça... ça ne changera pas et que l'amour sera seulement pour une personne.
Alors, merci beaucoup pour votre référence. Il y a sur l'amour, il y a peut-être un des plus beaux textes qui a été écrit, qui est celui de Platon, voilà, qui s'appelle Le Banquet. Donc vraiment, je vous invite tous et toutes à lire Le Banquet de Platon. Alors, c'est très accessible parce qu'en fait, c'est plusieurs conceptions concernant l'amour. On a un certain nombre de mythes et on a ce fameux mythe d'Aristophane, voilà, donc déjà chez les Grecs, 4e siècle avant Jésus-Christ, où l'idée qui en sort, c'est que, effectivement, au départ, l'humanité était une, et puis. Bah, comme d'habitude, l'humanité a voulu se prendre pour Dieu. Donc les dieux sont rentrés dans une colère terrible et qu'ont-ils fait ? Ils ont scindé cette humanité en deux, d'où le nombril que nous avons, qui est la marque même de la scission. Et cette scission, les Grecs disaient déjà qu'elle était plurielle, c'est-à-dire ça pouvait être homme, femme, ça pouvait être homme, ou ça pouvait être femme, femme. Toujours est-il qu'on était dispersés, disséminés, et quel est le sens d'une vie humaine ? C'est de chercher sa moitié. Voilà. Il y a bien un être dans cet univers qui m'attend, qui me correspond, parce que c'est un autre moi-même. Voilà. Et à partir de là, tant que je ne l'ai pas rencontré, je me sens par définition incomplet, inachevé, voilà, insatisfait. Voilà, à la recherche du bonheur et la rencontre de l'autre, ce sentiment amoureux qui me fait savoir par le sentiment, par l'affect, que l'autre est la bonne personne, qu'elle est celle qui viendra combler mon manque, parce qu'avec elle, on ne fera de nouveau plus qu'un. Voilà, et là est le bonheur. Voilà. L'amour, c'est ça. Et on est vraiment dans cette idée que le couple,
c'est la rencontre de deux moitiés qui en fait se sont cherchées toute la vie. Mythe magnifique, absolument magnifique. Oui. Bonsoir. Il me semble important de faire la distinction entre le sentiment amoureux et la relation amoureuse. Je m'explique, je peux être très amoureuse de quelqu'un, avoir un amour immense pour cette personne, mais la relation amoureuse peut être déplorable, il peut être, je ne sais pas, la personne peut... je peux ne pas me sentir respectée, ignorée, la personne peut être alcoolique, violente, et pourtant il y a de l'amour. Donc pour que cette relation tienne, il est important que la relation amoureuse soit nourrie, qu'il y ait de l'attention, de la bienveillance, des petits mots doux. Voilà. À mon sens, il est important de faire la différence entre les deux. Et je rejoins l'opinion de la jeune fille devant moi. Lorsqu'au début, elle disait qu'il est important de mettre les choses à plat, de faire part de nos attentes dans le couple, de dire ce que nous, on attend de la relation, ce qu'on est prêt à y mettre, ce que l'autre est prêt à y mettre, et définir clairement les zones d'intolérance. Est-ce que, par exemple, une rencontre avec une tierce personne, est-ce que ça m'est possible, oui ou non? Voilà, si c'est OK des deux côtés, voilà, c'est OK des deux côtés, mais il est important de l'énoncer effectivement avant.
Ce qui voudrait dire déjà que le couple, c'est pas simplement deux personnes et un sentiment amoureux. Le couple, c'est donc deux personnes, une relation, et le fait de faire attention à cette relation, d'y porter attention. Ce qui voudrait déjà dire peut-être que le couple, c'est tout un travail, en fait.
En fait, on est trois.
On est trois dans le couple.
C'est toi, moi et la relation. Et la relation est une personne à part entière, puisqu'elle doit être nourrie constamment. Mmh.
D'accord, on doit en prendre soin, voilà. D'où le désir d'être en couple. Parce qu'après tout, on pourrait très bien supposer des gens qui ressentent un sentiment amoureux sans avoir du tout le désir d'être en couple. Est-ce que le couple se pense par une relation qui fait que les gens restent nécessairement ensemble? Question.
Je ne sais pas.
Question.
Bonsoir. Donc je fais aussi partie des jeunes de la salle et qui ont demandé de parler. Et moi, j'aimerais offrir une vision un peu plus déconstruite de l'amour. Alors, à mon jeune âge, ce sera pertinent comme ce sera pertinent, mais selon moi, c'est un concept qui est très surfait, dans le sens que c'est surreprésenté, c'est-à-dire que les films d'amour, on peut les compter sur les doigts, les orteils, tout ce qu'on a. Tous les livres d'amour, l'amour sur les réseaux sociaux auxquels on est confronté, surtout notre génération, quotidiennement. Mais finalement, je pense que ce dont on ne parle pas assez, c'est aussi l'amitié, c'est-à-dire que je pense qu'il y a beaucoup de relations amoureuses, de relations amoureuses qui sont finalement fondées sur l'amitié, et si ça suffit aux deux personnes, dans ce cas-là, au gros de ma poule, mais il peut aussi arriver. Selon moi, en tout cas, l'amour, notamment hétérosexuel, qui est très représenté, en fait, si une fille, notamment à notre âge, ressent l'amitié pour un garçon, ou inversement, un garçon ressent l'amitié pour une fille, il va très rapidement l'interpréter comme de l'amour, parce que ça nous arrive pas souvent, surtout encore une fois à notre âge, de ressentir un sentiment aussi fort pour quelqu'un du genre ou du sexe opposé, sans que ce soit de l'amour. Mais ce qui, à ce moment-là, différencie l'amour de l'amitié, ça va être l'attirance. Et ça, je reviens d'ailleurs sur ce terme d'attirance, parce que depuis tout à l'heure, on dit que ce qui fait qu'on se met en couple, c'est l'amour. Mais selon moi, l'amour, encore une fois, c'est plus profond que ça.
Ce qui fait qu'on se met en couple, c'est évidemment donc, le respect, l'intérêt l'un pour l'autre, mais c'est surtout l'attirance. L'attirance qui va être évidemment, c'est indéniable, physique, mais aussi qui peut être de l'attirance intellectuelle. Je me suis perdue dans mes petites notes. Non, attendez, j'avais encore quelque chose à dire. Oui, mais l'amour se construit plus tard dans la relation. L'amour n'est pas la raison pour laquelle on se met en couple, mais c'est la raison pour laquelle on le reste. Et enfin, toujours pour revenir sur les limites de l'amour, c'est que l'amour, ça peut être de l'amitié, ça peut être une simple attirance, mais ça peut aussi être un vide, ça peut être le vide qui va résulter en le désir d'être aimé, en un certain appétit charnel, en la peur de la solitude. Il y a plein d'autres, encore une fois, même dans cette... Enfin, ça peut même être peut-être transporté par la religion, parce que dans la Bible, par exemple, on nous dit qu'il faut, un homme et une femme doivent se mettre ensemble pour perpétuer la race. Et bien, peut-être que ça peut aussi être moteur pour l'imagination que ce sentiment d'amour existe, alors que finalement, c'est peut-être seulement un sentiment d'amitié ou autre. Voilà, j'espère que vous avez compris, parce que je me suis complètement perdue dans ce que je voulais dire.
Non, c'est bon. Moi, je synthétiserais en disant que l'amour peut être aussi une construction sociale, quoi. Voilà, hein, et totalement culturelle, en fait. Ouais. Mm-hmm. Moi j'ai quand même une réflexion sur le fait que... un couple, c'est deux individus, que l'amour peut se construire aussi avec le temps. Il y a des sentiments d'attirance, etc. Mais il y a aussi des choses qui se construisent. Et aujourd'hui, la remise en cause du couple, c'est peut-être aussi le fait qu'on fonctionne quand même encore sur des vieux schémas. Et que chaque personne, chaque individu qui construit ce couple... est à la recherche aussi de plus en plus de son épanouissement personnel. Et là, il y a toute une évolution qui se fait également dans le temps, qui peut enrichir l'amour, qui peut au contraire le détruire, parce que l'individu ne se retrouve pas dans ses aspirations individuelles. Et je pense qu'il y a, on peut s'épanouir aussi seul, on peut s'épanouir si on peut s'épanouir quelquefois beaucoup plus facilement seul qu'en couple. C'est peut-être là que ça se joue aujourd'hui, parce que en fait les grands schémas tombent au fur et à mesure. Et il y a beaucoup de gens qui se retrouvent finalement beaucoup mieux tout seul qu'en couple, parce que le couple, c'est une évolution aussi qui ne se fait pas forcément dans le bon sens.
Bonsoir à tous. Je voulais revenir sur la relation entre l'idée, entre cette idée d'être incomplet, de devoir être complété par quelqu'un d'autre pour reformer cette harmonie en mythe dont vous avez parlé tout à l'heure, la crise ou la crise perçue du couple. Parce qu'il me semble que dans la question qui a été posée au début de ce débat, il y a une forme peut-être d'angoisse, angoisse c'était un peu fort, mais enfin, il y a cette idée que le couple est en crise, quoi. Qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, je pense, enfin, s'il y a bel et bien quelque chose qui est en crise, c'est peut-être ce mythe de l'âme sœur, finalement. Enfin, ça a été dit maintes fois, mais effectivement, il y a une époque pas si lointaine, notre mobilité sociale, notre mobilité même dans l'espace était beaucoup plus limitée. Les gens, pour la plupart, en fait, restaient ne sortaient pas vraiment de leur village, de leur ville, restaient un petit peu, fréquentaient un peu les mêmes personnes tout au long de leur vie. Et je pense que dans des circonstances comme celle-là, croire au mythe de l'âme sœur, enfin, le mythe de l'âme sœur, en fait, est beaucoup plus crédible qu'il ne l'est aujourd'hui. Moi, je pense que, enfin, je ne veux pas forcément parler de mythe. Des tentations, parce que je trouve que c'est un terme un peu péjoratif, mais effectivement, le mythe de l'âme sœur me fait toujours un petit peu sourire, quoi, parce que bon, les gens qui croient en l'âme sœur le rencontrent généralement
bon, dans un rayon de 15 km. Quoi. La nature est bien faite, il est toujours placé à portée. Quoi. Besoin de voyager à Pékin, c'était proche de nous. Effectivement, moi je trouve que le fait qu'on puisse rencontrer tant de monde aujourd'hui, que ce soit juste dans la vie de tous les jours ou via des applications maintenant qui sont dédiées à rencontrer d'autres personnes, effectivement, ça je pense que ça met une certaine idée qu'on peut avoir du couple en crise. Finalement, et puis je pense que je vais revenir aussi à cette question initiale qui était quel est l'avenir du couple. Moi je pense que poser cette question, ça pose la question de un couple, à quoi ça sert, est-ce que ça a un but, est-ce que c'est le bonheur, est-ce que c'est la reproduction de l'espèce. Je pense que c'est des questions qui sont intéressantes et je voulais juste revenir, et ce sera mon dernier point, mais je voulais juste revenir sur cet aspect reproduction de l'espèce en disant simplement que bon, effectivement il y a peut-être des raisons des explications scientifiques qui montrent que l'espèce humaine tend vers la monogamie, mais que on peut aussi élever des enfants avec plusieurs parents, que des familles comme celle-là existent et que des familles qui ne reposent pas du coup sur un couple et qui que voilà, mais j'ai pas d'études à sortir comme ça de mon chapeau qui prouverait mon point, mais apparemment c'est aussi quelque chose qui est bénéfique pour l'enfant, quoi, qui effectivement est très fragile et a besoin d'être protégé jusqu'à un âge assez avancé dans pas mal d'autres espèces. Voilà.
Mais c'est intéressant parce que est-ce que quand on parle du couple, on parle aussi de la famille ? Voilà, je trouve qu'il y a quand même là quelque chose à aller travailler, parce qu'en fait, on le sous-tend plus ou moins depuis le départ, quoi, que là où il y a couple, il va y avoir famille. Donc, encore une fois, quelque chose qui s'inscrit dans le corps social. Après tout, effectivement, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir couple indépendamment de la famille, avec tout ce qu'on appelle aussi les logiques de famille recomposée, nouvelle forme familiale, avec des inventions aussi qui sont en train de se faire actuellement dans le social sur les nouvelles manières de vivre ensemble. Oui,
oui, j'allais tout à fait dire ça, c'est-à-dire au fond, derrière le couple, soit on y cherche de la compagnie, mais alors dans ce cas-là, effectivement, le couple hétérosexuel, c'est un cas particulier parmi beaucoup d'autres. On peut se mettre aussi d'ailleurs en colocation avec d'autres personnes qu'on aime bien, on peut avoir un chien ou un chat, enfin ça fait de la compagnie en un sens. Donc c'est le vrai truc, c'est plutôt la famille au fond qui est l'enjeu, je crois, c'est la perspective de famille. Et moi j'ai l'impression, quand on réfléchit un peu au modèle dans la nature, il y en a à peu près, je pense, quatre. Et je dirais les trois autres, je dirais la famille, le couple finalement, et la bonne structure. Donc on dit oui, il a un avenir parce que les autres sont mauvaises structures.
Alors quelles sont les autres?
Les quatre, moi, côté des situations dans lesquelles mâles et femelles se rencontrent de façon très très intermittente. Et en fait, c'est essentiellement le modèle de la mère célibataire pour nous, quoi. C'est-à-dire la femme s'occupe des enfants et puis les hommes sont ailleurs. Deuxième modèle, c'est le modèle un peu, disons, on va dire, où les femelles sont ensemble, s'occupent de tous les enfants et puis les mâles gravitent autour. On ne sait pas trop exactement où ils sont d'ailleurs. C'est le modèle un peu de clan, peut-être, quelque chose comme ça. Il y a le modèle du couple, des animaux monogames, il y en a aussi beaucoup. Et puis après, il y a aussi un modèle où on pourrait dire du harem finalement, quoi. C'est-à-dire un mâle dominant qui a un harem de femelles et qui chasse les autres mâles. Et j'ai l'impression qu'en gros les trois autres sont catastrophiques et que de ce point de vue-là, le modèle finalement du couple égalitaire, souvent basé sur l'amour romantique, il est un peu vieux jeu, mais finalement il est beaucoup plus égalitaire, plus juste et finalement plus profitable aux enfants que les autres structures qui sont désastreuses, où les enfants sont trimballés. Ou qui repose sur un niveau de violence considérable, quoi. Enfin, du coup, j'ai l'impression qu'il y a un avenir au sens où les autres sont vraiment bien pires, quoi. Donc,
Alors, en même temps, attention peut-être à ne pas projeter nos normes culturelles sur ces différents modèles. Parce que c'est vrai qu'en Afrique, par exemple, c'est la communauté des femmes qui élève les enfants. Et effectivement, les hommes... celui qui va s'occuper de l'enfant en Afrique, dans certaines communautés africaines, c'est jamais le père. Le père, il vient, il est visiteur, mais celui qui s'occupe de l'enfant, c'est l'oncle. Donc, c'est intéressant de voir que la famille, en tout cas, moi, ce qui me semble, c'est que la famille, ce n'est pas une donnée naturelle. Effectivement, c'est une construction culturelle. Et nos éducations nous rendent sensibles à certaines formes familiales plutôt qu'à d'autres. Mais ça se vit. Et puis, il y a aussi enfin, le fameux mythe des Amazones, par exemple. Après tout, hein, les femmes élèvent effectivement les enfants, et puis les hommes ne sont là que pour la reproduction. Là, on met encore un pas plus loin. Mais je dirais que sur certaines mères célibataires, l'homme n'est pas nécessairement celui sur lequel on pleure. Hein. Voilà, il y en a pour qui c'est volontaire d'être mère célibataire. Hein. Donc, on retrouve cette idée-là. Donc, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que les modèles sont pluriels. Et ça, je trouve que c'est bien de l'entendre.
Oui, alors je vais faire intervenir une notion, mais un petit peu plus noire, du couple, mais qui fait tenir le couple, en fait. C'est la face noire de l'être humain, qui est l'égoïsme. Et dans un couple, c'est le sentiment d'appartenance de son conjoint et de possession. On dit toujours ma femme, mon chien, ma femme, enfin mon maison, c'est à moi.
Mon mari,
c'est à moi.
C'est à moi, tout à fait.
Et si ma femme me trompe, alors là, la jalousie qu'elle ah là là, parce que c'était mon bien, mon bien ne peut pas être une autre personne, puisque c'était ma femme. Donc, il y a en fait un sentiment plus noir de l'homme qui fait que, ou de la femme, qui fait que le couple tient, puisque l'un comme l'autre
se possède.
Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez fort, mais ça contrairement au sentiment d'amour qui est plutôt bon, et ce sentiment d'appartenance qui est un peu moins glorieux, mais quelque part tient quand même un couple.
Mais ce qui est intéressant dans le mariage, moi je trouve, c'est l'anneau. Hein. Quand même, on met un anneau, hein. Ouais, de l'appropriation. Hein. La symbolique est forte. Ah oui, c'est trop. Moi j'en ai deux. Oui.
Je voulais revenir sur le mythe, mais avant un commentaire par rapport à ce qui vient d'être dit. Je pense qu'il y a un remède au divorce, hein, mais bon, on le connaît tous.
C'est le passe mariage.
Exactement. C'est le passe mariage.
Ben voilà, c'est ça, c'est le passe
mariage. C'est la seule façon. C'est le seul truc qui marche. Après, je ne partage pas complètement le sentiment de possession qui a été évoqué. Enfin, en tout cas, je ne m'exprime pas comme ça. Je reviens à ce que je voulais dire avant sur les mythes. Avec cette histoire de trouver sa moitié, en fait, par rapport au mythe de Platon, effectivement, Platon est, je pense, assez judéo-chrétien compatible avec le mythe de la caverne aussi, et cette idée d'un monde au-delà du réel, qui est le vrai monde, en fait, qui... Voilà. je voulais aussi revenir sur la partie éthologie, j'y connais pas grand-chose non plus. Pour apporter un bémol, j'ai entendu récemment que le plus vieil oiseau, donc c'est une femelle, qui vient de pondre là récemment, c'est une albatros, qui a 74 ans, et ça se passe quelque part dans l'hémisphère sud, et dans ce reportage, ils expliquaient aussi que les albatros étaient monogames, enfin, étaient ensemble, donc ça met un peu de... Enfin, ça met un petit bémol par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure sur par rapport à l'être humain, et alors elle avait déjà usé plusieurs maris à son âge,
mais
elle avait attendu apparemment qu'il meure pour en trouver un autre. Voilà, et puis je vais terminer peut-être par une question aussi, parce qu'on s'est un peu engouffré dans un tunnel qui est couple, mariage, amour, vivre sous le même toit, mais finalement, je me disais aussi,
deux personnes, peu importe le sexe, deux amis qui se voient tous les jours, ça dure des années, voire des décennies, voire une semaine, enfin pas forcément longtemps. Est-ce que c'est pas un couple aussi?
Je crois que le couple, c'est aussi une notion qui est dépendante du niveau de conscience avec lequel on l'appréhende. Et je voudrais juste te dire avec tout plein de choses que j'ai entendues tout à l'heure, que je crois que le couple a un avenir et un avenir même radieux. Je crois que ce qui n'a plus d'avenir, c'est le couple sacrificiel, quel que soit ce que l'on mette derrière sacrificiel. Voilà, le couple basé, et quel que soit le couple basé sur un vide de soi, je pense que lui, il est peut-être voué à sa perte. Notamment parce que le développement personnel est passé par là, le féminisme, un petit peu d'égalité femme-homme qui tend à se construire. Et je crois que ce qui a un avenir, c'est le couple basé sur un plein de soi, le couple qui est choisi, quels que soient les termes qui sont inventés, les termes qui sont les termes du contrat entre les consommateurs. Qui sont librement créés, inventés. Et je voudrais juste aussi dire autre chose, c'est que je suis assez bluffée par les propos que j'entends des jeunes là depuis tout à l'heure, qui avaient plein d'humilité, disent oui avec mon jeune âge et tout. Mais je trouve que c'est une pertinence incroyable. Et j'aimerais aussi dire que j'aimerais beaucoup sur cette question entendre des personnes plus âgées donner aussi leur point de vue.
La parole est à vous.
Moi, je voudrais intervenir en tant que jeune.
Lycéen.
Jeune retraité. Et 36 ans d'expérience de couple.
Donc ça peut par rapport aux expériences.
Y a toujours un truc qui m'a surpris dans les grandes décisions qu'on apprend dans la vie. Avoir un enfant, parce qu'on sait que c'est pour toute la vie, et se mettre en couple, parce que généralement quand on décide de se mettre en couple, c'est pas avec l'idée qu'il y aura un échec demain, c'est que ça va durer. Et je voudrais vous livrer une petite réflexion sur ces deux choses qui sont sans doute dans les plus importantes qu'on ait à vivre. Que nous apprend-on? Rien. À quel moment, dans toute l'éducation qu'on reçoit, on nous apprend à élever des enfants, à éduquer des enfants, à savoir comment on doit se comporter, vivre en couple? Et quand on regarde les divorces, beaucoup de divorces sont le fait de peut-être une évolution, un développement personnel de chacun qui peut être différent, mais beaucoup par un manque de communication, un manque d'échange, un manque de capacité à gérer les conflits, les périodes délicates. Et je trouve qu'il manque, et je pose la question, que fait-on justement pour apprendre à réaliser ces deux événements qui sont peut-être les plus importants de notre vie? Éduquer un enfant et puis arriver à vivre avec une personne qu'on a choisie. Et à un moment donné, on sait que l'amour qui est le socle initial peut un peu distant parce que le quotidien prend le dessus, et dans le quotidien il y a quand même des choses qui sont toutefois marrantes. Et si justement on n'arrive pas à traiter par une bonne communication, un bon échange, une façon de gérer les discordes ou les mésententes, ça devient plus compliqué. Donc que fait-on? Qu'est-il prévu pour aider les futurs couples? Je pense aux jeunes.
Donc je reviens, moi je suis celle qui idéalise totalement le truc. Pour le couple qui a un avenir, je pense qu'il a un avenir, mais pas forcément avec le sentiment de l'amour derrière. Si on reste sur l'idée que l'amour c'est vraiment l'âme sœur, etc., comme on avait bien remarqué derrière, je pense que beaucoup de personnes ne le trouvent pas en réalité s'il existe. Et je pense qu'on peut quand même vivre notre vie, même si on ne trouve pas dans l'hypothèse qu'il existe.
Et je pense qu'effectivement, le couple et l'amour, ça peut être très différent. Par exemple, une relation de couple, ça peut être basé sur le respect mutuel. Et ça peut être juste une attirance, mais pas forcément quelque chose de plus profond. Et donc voilà, je pense qu'on peut très bien vivre sa vie sans vivre le sentiment apparemment dévastateur qu'est l'amour. Mais donc voilà, je pense que le couple va évoluer dans ce sens-là. Et voilà, on n'est pas tous. C'est un petit peu pessimiste, mais peut-être qu'on n'est pas tous destinés à le trouver. Mais voilà.
Mais peut-être justement parce que ce mythe que l'on trouve effectivement dans le banquet de Platon n'est pas du tout la position que Platon tient sur l'amour. Et justement, ça n'est qu'un mythe. Voilà. Un beau mythe qui nous fait rêver, qui nous fait fantasmer, mais peut-être justement qu'un mythe, qu'une illusion, comme on l'a dit. Ouais. Qui tout d'un coup vient plomber un peu l'ambiance. Voilà. Donc je repose la question de départ, est-ce que le couple a un avenir?
Voilà. Moi je serais tentée de dire oui, parce qu'en fait pour moi le couple c'est une conquête au quotidien. C'est-à-dire en fait quand on est amoureux, on se regarde, on a les étoiles dans les yeux, et puis notre cœur bat la chamade, et puis on vit les choses absolument magnifique, vibrante, etc. Et en fait, l'idée, c'est qu'au quotidien, quand le couple se forme, c'est qu'il y ait justement cette conquête, c'est-à-dire qu'on puisse continuer de se regarder avec une connivence amoureuse, avoir des attentions douces et tendres l'un envers l'autre, se surprendre mutuellement. Voilà, c'est ça, en fait, la conquête, c'est de ne pas se contenter de choses ronronnantes, de choses... voilà, en fait, qui nous plombe, comme le boulot, etc., etc. Et je serais tentée aussi de dire, alors ça va peut-être vous faire rire ou pas, mais c'est important aussi qu'il y ait de l'imagination dans la relation intime, et que ce soit pas toujours plan-plan, parce que c'est vrai que l'homme, du coup, il tentait d'aller voir ailleurs.
Ouais. Et les femmes aussi.
Oui, les femmes aussi.
Bonsoir.
Oui.
Justement, par rapport à l'image qu'on avait, enfin, plutôt la construction sociale du couple un peu plus ancienne, où le modèle un peu des mariages arrangés, on se mettait ensemble pour avoir des enfants, pour perpétuer un héritage. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est quand même plus dans une logique de choisir la personne avec laquelle on veut être. Et par rapport du coup au mythe de l'âme sœur, je trouve qu'il est pas mal repris dans les médias, dans les récits actuels, les films et tout ça. Et je trouve qu'on est dans une forme de pensée magique où comme voilà, c'est l'âme sœur, c'est censé être le rencontre, le coup de foudre, au premier regard, et puis en fait c'est facile. Comme s'il n'y avait aucun effort à faire, que ça devait tomber tout cul dans le bec, et que voilà, on est avec la personne et tous les jours et ça se passe bien. Bon, déjà je pense qu'il faudrait différencier le désir du fait de vivre au quotidien. Et je pense qu'on peut désirer plein de gens, et puis pas forcément avoir envie de vivre avec n'importe qui par contre dans son quotidien. Je pense que c'est pas la même chose. Et en fait, par contre, je pense que cette notion de l'effort aujourd'hui, je vais peut-être dire un gros mot, mais je pense que le capitalisme veut tuer l'amour. Bon, en tout cas, la relation couple, dans l'idée, quand on voit que voilà, si c'est censé être facile à partir du moment où on a trouvé la personne, et que bah, du coup, si jamais il y a le moindre problème, le moindre conflit, bah, il suffit d'aller voir ailleurs sur l'application amoureuse, sur... enfin, il y a plein de possibilités qui sont données pour trouver quelqu'un d'autre. Il y a plein de coaching, de choses comme ça, et de gens qui vont nous expliquer comment faire pour trouver mieux, mais sans forcément s'interroger ou essayer de retravailler en fait, ce qui s'est mal passé dans la relation, puisque c'est en réalité pas intuitif que vivre au quotidien avec quelqu'un d'autre qui a un fonctionnement différent de soi, ça fonctionne du premier coup. Il se trouve que dans mon boulot, j'écoutais des... Enfin, je travaille dans un centre social et j'écoutais des dames d'un certain âge, en 75, 80 ans, qui parlaient de leur couple et qu'elles disaient justement par rapport à aujourd'hui, un peu la même question qu'on se pose, c'est quoi la différence? Et pour elles, c'était justement l'effort dans sa relation, enfin, dans la construction de sa relation, et qu'ils avaient l'impression, en voyant leurs enfants, leurs petits-enfants, que... Ils n'avaient pas le goût de l'effort aujourd'hui. Bon. Après, voilà, c'est leur point de vue. Mais je pense que le capitalisme pousse à justement être dans une forme de consumérisme et qu'on n'a pas besoin de faire d'efforts parce que voilà, c'est censé être facile tout le temps.
Mmh. Ouais. On change de parcours facilement. C'est ça. Mmh. Oui.
Je voulais revenir sur le fait que le couple, c'est une notion de relation entre deux personnes, et que cette relation, on a dit qu'elle passait par le sentiment amoureux, le fait d'avoir de l'attention, ça pouvait être aussi matériel. On l'a abordé aussi, mais c'est le plan de la relation sexuelle. Donc en réalité, il y a différentes composantes, et je pense qu'il y a une difficulté qui est de trouver... la personne avec laquelle vivre toutes ces composantes de façon harmonieuse et durable. Et on peut interroger pourquoi en fait nécessairement devoir vivre tous ces plans avec une seule personne. C'est-à-dire qu'on peut parler d'exclusivité sexuelle, on a parlé beaucoup de couple hier, mais pourquoi pas décorréler certains plans en fait relationnels au sein du couple. Moi j'ai de la chance, j'ai une femme avec laquelle on partage très bien l'organisation familiale, avec une femme avec laquelle qui est très attentionnée et complice, une femme sur le plan physique ça se passe très bien. Je dirais juste que ces trois jours ne se rencontreront jamais. Voilà, c'est une blague.
En tout cas, elle est remarquable.
Sur les différents plans de la relation de couple et pourquoi pas d'être une relation.
Oui, oui,
oui. Alors, oui, donc je prends deuxième fois la parole. Je voulais revenir par rapport à ce que j'ai entendu derrière moi sur le capitalisme et l'aspect consommation de l'amour. Alors d'abord, je pense qu'il y a un livre de Frédéric Becbédé qui s'appelle « L'amour dure 3 ans », qui est sorti il y a une dizaine d'années. Il y a beaucoup de statistiques qui vont dans le sens qu'effectivement, la passion amoureuse s'essouffle au bout de 3 ans. Et l'avenir du couple... Je pense que si on le prend juste en étant persuadé qu'on va rester sur cette intensité amoureuse pendant 10 ans, 20 ans, je pense que ça va être compliqué. Parce que si l'intensité amoureuse, elle est tellement forte, elle est tellement puissante, c'est parce qu'elle ne dure pas dans le temps. Si elle dure dans le temps, elle ne serait pas aussi intense. Donc je pense qu'il faut aussi l'accepter, quelque part, et se dire que... qu'après, effectivement, un amour passionnel, ça peut être un petit peu plus tranquille, on peut s'aimer différemment, avoir des projets en commun, peut-être. Et la deuxième chose, c'était peut-être aujourd'hui, par rapport, encore une fois, au capitalisme, on est peut-être un peu trop exigeant aussi sur ce que l'on souhaite. Et pourquoi on est exigeant? Parce qu'on va montrer sur les réseaux, on va comparer, on va performer, on va être dans tous ces indices-là. Or, pour moi, le romantisme ou l'amour, c'est l'inverse de la consommation. Et il y a une chanson de Boris Vian qui s'appelle « La complainte du progrès », qui date des années 50, où en fait, il dit très clairement que avant qu'on soit dans cette addition d'achat, mon frigidaire, etc., on était beaucoup plus dans le romantisme et dans l'amour. Et que c'est la consommation qui a... C'est un petit peu... voilà, fait diminuer tout ça.
Je
C'était la troisième fois que j'interviens, on m'a demandé le micro. Je voulais revenir sur un petit peu d'éthologie aussi de tout à l'heure. J'ai entendu des gens qui disaient que en fait, quand deux personnes ressentaient une attirance, en fait, on pouvait appeler ça de l'amour ou comme on voulait, mais en fait c'était l'espèce qui voulait ça. Donc ça va dans le sens de justement un peu de la survie de l'espèce, de ce qu'on disait tout à l'heure. Et finalement ça change rien puisque le sentiment qu'on ressent c'est toujours le même. Et rien que de vivre ce sentiment-là, je pense que c'est une bonne raison. Enfin, la vie vaut la peine d'être vécue rien que pour ça, je pense. Mmh. Et par rapport à ce que disait la dame devant là, tout à l'heure, qui a été repris par le monsieur, c'est vrai que c'est 24 heures sur 24, mais heureusement que ça ne dure pas toute la vie, parce que je pense que l'espérance de vie serait beaucoup plus courte.
Ça ne court pas tant, l'amour. L'amour passionnel toute une vie, ça use. Alors c'est intéressant sur cette logique un peu du darwinisme, je me permets de revenir. Hein. Effectivement, qu'est-ce qui justifierait notre attirance vers autrui ? Ben, le fait que de la reproduction, et donc je serais attirée vers celle ou celui qui serait le meilleur reproducteur pour l'espèce. Alors, pourquoi pas, hein, mais alors quid du sentiment amoureux après la ménopause, quoi, parce que là, ça fonctionne plus. Donc, si le sentiment amoureux dure, si les attirances durent, alors même que la reproduction, l'âge de la reproduction est passé, peut-être qu'il y a quelque chose d'autre à aller chercher dans ce sentiment qui est tellement humain, je pense.
Oui, oui ben justement... Parlons de ménopause. La vie d'une femme ou la vie d'un homme ne s'arrête pas à la reproduction. Et heureusement, parce que ça nous permet justement de pouvoir revivre et de pouvoir envisager un futur qui ne soit pas le futur j'ai terminé mon travail de reproductrice et je mets de côté mon travail, mon envie de plaire, mon envie de séduire, mon envie d'aimer à nouveau. Cette envie qu'on retrouve quand on a divorcé, par exemple, on reste pas à se m'enfondre auprès de notre cheminée en se disant ma vie elle est terminée, je dois être laissée de côté. Non, je reprends chez ma grand-mère qui a 70 ans a trouvé quelqu'un dans sa vie. Elle était veuve, elle a retrouvé quelqu'un. Elle a retrouvé un avenir à deux. Donc, j'ai fait pareil, divorcée, ménopausée, j'ai retrouvé un avenir à deux. Donc, je ne vois pas en quoi le fait de concevoir une reproduction fait qu'on ne peut pas tomber de nouveau amoureuse, qu'on ne peut pas de nouveau vivre en couple. Donc pour moi, il y a ça aussi dans l'avenir, le fait que il faut se reconstruire, il faut reprendre, remonter à cheval et on y va.
Je citais complètement tout à l'heure quand je parlais de se former à vivre en couple, se former, éduquer les enfants. Le constat, c'est que c'est souvent que il y a distension, il y a des accords, que là, tout le monde pense à mettre en place des moyens pour s'aider, avoir un psychologue, des psychiques, couple, faire des tas de choses, développement personnel, pour mieux gérer la communication, l'échange avec l'autre et tout ça. Et je voudrais juste revenir sur la question que j'ai posée, est-ce que c'est l'avenir, le couple a-t-il un avenir ? Est-ce que c'est vraiment le couple qui a un avenir ou vivre à deux qui a un avenir ? Parce qu'on entend, ça suppose que le couple voudrait dire « je suis ». Du début jusqu'à la fin, jusqu'à la mort avec la même personne. Quand un couple, c'est deux personnes ensemble. Donc peut-être qu'à un moment donné, il y a un accident de parcours, il y a un fait qui, à un moment donné, fait qu'on rebondit vers une autre histoire amoureuse où tout le monde revit bien. Donc c'est peut-être, est-ce que c'est pas la nécessité de vivre à deux parce qu'il y a un intérêt, au-delà de l'intérêt matériel, mais un intérêt sentimental, l'intérêt de confort, de bien-être qui est l'avenir. Et moi, j'y crois fermement. Voilà. Je me permets, comme j'ai le micro, qui est en couple dans la salle ?
Ah oui, quand même, hein.
Juste pour les jeunes, je coupe la date d'avenir.
Ouais.
Donc je promets que cette fois j'ai remis mes notes. Donc en bonne jeune qui se respecte, je voulais revenir sur les réseaux sociaux et leur impact d'une certaine manière sur notre interprétation de l'amour maintenant, aujourd'hui. Donc d'abord il y a une certaine mise en place en fait sur les réseaux sociaux d'attentes irréalisables ou même pas réalistes. Des attentes en fait souvent des hommes envers les femmes que d'une certaine manière celui-ci doit faire tout pour elle, doit être galant à l'extrême, doit tout risquer, tout faire comme on voit dans les films hollywoodiens. Mais finalement, surtout à notre âge, en fait, le problème c'est que comme les réseaux sociaux c'est accessible à tout le monde et que c'est surtout les adolescents qui sont dessus. On a des adolescentes de 15 ans qui attendent de leur copain de 15 ans aussi qu'il paye le resto, par exemple, ce qui n'est pas possible quand on n'a pas encore le droit de travailler. On n'a pas encore le droit à un salaire. Donc ça va être un petit compliqué. Donc c'est juste que ça peut mettre en place certaines attentes irréalisables qui peuvent mettre un certain obstacle au couple, parce qu'on peut se dire « je l'aime, il m'aime ». J'ai vu une vidéo qui disait que c'est ça et que ça c'était un non total instantané, un red flag comme on dit, et que c'était impossible de me mettre avec lui parce que je l'aime, il m'aime, c'est génial, mais on m'a dit que ça c'était juste pas possible. Ensuite, il y a aussi une instauration de nouveaux codes sociaux d'une certaine manière qui se sont renouvelés avec les réseaux sociaux, c'est-à-dire que pour donner un petit exemple, dans les films, c'est génial, c'est super simple de dire non à quelqu'un, je ne peux pas, je t'aime, mais je ne peux pas, et de revenir 10 ans après et qu'en fait la personne nous attend les bras croisés, même plutôt bras ouverts, depuis tout ce temps, avec toute la patience du monde, et qu'on revient et la vie est belle, le ciel est bleu, on vit notre vie ensemble, et que la personne, en fait, pendant tout ce temps, a resté là à nous attendre. C'est si simple dans les films, et pourtant dans la réalité, non seulement c'est pas si simple, mais en plus même 2 mois après, de revenir, on peut se ressentir une forme de honte, et puis même, encore une fois, les réseaux sociaux instaurent cette espèce de « ouais, si il t'a dit non, mais qu'après il veut revenir, tu dois pas lui dire non, même si tu l'aimes, et tout, c'est du respect pour toi-même, enfin c'est une espèce de, voilà, de doctrine un petit peu, qui va nous, encore une fois, nous braquer contre une possibilité de couple, parce qu'on a vu... Parce qu'on nous a dit que, parce que ça se fait pas de lui-même. Ensuite, il y a une espèce de déconstruction de l'amour, c'est-à-dire que l'amour est démembré, l'amour est analysé bout par bout, et ça ne laisse plus aucune place à la découverte, plus aucune place à l'émerveillement. Tout a un terme, tout est un algorithme, tout est un cycle perpétuel et répétitif. Et il n'y a plus aucune chance de découvrir. En fait, tout est tellement scientifique. En fait, l'amour est devenu une forme de science parce que tout est défini, tout est numérisé et il n'y a plus de découverte, il n'y a plus vraiment d'émerveillement. Comme disait Oscar Wilde, et moi-même à 12 ans avant de découvrir Oscar Wilde, définir c'est limiter. Il a dit mieux que moi. Définir, c'est vraiment mettre une limite à l'amour et lui donner des propriétés, alors que c'est toute la beauté que je trouve dans l'amour, c'est le fait qu'il est indéfinissable, ce qui est même peut-être la raison pour laquelle il est masculin en singulier et féminin en pluriel. Il ne veut pas se définir, il ne veut pas se laisser dans une case. Ça c'est quelque chose qu'on nous répète beaucoup, c'est que, parce que j'ai quand même essayé de positiver un petit peu sur les réseaux sociaux, c'est aussi mon rôle. C'est cette idée de « Ah, maintenant on est tous penchés sur nos portables, on va moins vers les autres. » Mais finalement, on va vers les autres d'une autre manière. C'est-à-dire qu'il peut nous arriver d'être timide et de ne pas oser aller vers les autres dans la vraie vie. Mais maintenant, c'est tellement plus simple d'ajouter quelqu'un sur Instagram et de lui envoyer un message, de répondre à sa story avec un emoji. Ce genre de choses, c'est tellement plus simple que d'aller voir quelqu'un dans la vraie vie, surtout avec ces nouveaux codes sociaux dont j'ai déjà parlé.
Ensuite, pour revenir sur les attentes dont j'ai parlé tout à l'heure, qui étaient très négatives quand j'en parlais, en fait, elles mettent aussi en place certains standards, certaines attentes qui sont, elles, réalistes et qui peuvent donner aux jeunes qui n'ont aucune expérience une idée aussi de ce à quoi s'attendre et ce à quoi ne pas s'attendre dans un couple une fois que le tri a été fait.
Je pense que...
J'ai pas encore plein de trucs positifs dans cette décision, mais malheureusement...
Parce qu'il est 20h36, donc vraiment, si... Voilà. Bon, oui, allez-y.
Moi, je voudrais dire simplement que l'amour, c'est la seule chose peut-être qui ne s'explique pas, qu'il ne faut pas chercher à expliquer, que sur les réseaux sociaux, on est dans un monde virtuel. Alors, en français, virtuel, ça veut dire qu'il n'existe pas. Et l'immense piège, comme film et tout ça, les romans, ce qu'on nous vend aujourd'hui... Faut qu'avec un emoji, on peut répondre à n'importe comment, à n'importe quoi, et on le voit assez souvent pour les cas de diffamation, pour toutes les enquêtes. Attention, attention, l'amour, c'est pas ça. Nous, on peut en parler, on en est à 53 ans. Alors, je sais pas comment ça marche, mais je veux dire, c'est possible. Mais surtout, on doit rester dans la cour, et surtout, ne croyez pas ce qu'il dit sur les réseaux sociaux, parce que là, vous perdez votre temps. On pense avec beaucoup de recul, en étant scientifique, et comme disait Coluche, quand on a les jambes à la bonne longueur, c'est quand les deux pieds touchent par terre.
Bon, ben on a bien fait de choisir ce sujet. Hein. Voilà. Donc maintenant, il faut conclure. Donc si définir, c'est limiter, ma position n'est pas simple. Alors, j'aimerais conclure en partant d'un ouvrage dont je trouve le livre assez évocateur. C'est La femme célibataire et le prince charmant de Jean-Claude Kaufmann. Et je trouve que donc c'est un sociologue à la base, et ça regroupe bien tout ce qu'on vient de dire ce soir, c'est-à-dire pour quelle raison il y a autant de femmes célibataires malheureuses. On n'est pas dans des femmes célibataires dans l'étude qu'il a faite, on n'est pas du tout dans des femmes célibataires qui s'affirment comme telles et fières de l'être. On est dans des femmes qui souffrent d'être célibataires. Et en fait, sa conclusion, c'est de dire, mais la raison de leur célibat, c'est qu'elles croient au prince charmant. Voilà, c'est un terme qu'on a peu utilisé ce soir. Mais quand on parle d'amour comme ça, au final, derrière, c'est ce qu'on a dit avec la seconde moitié de l'orange là, que je cherche. Mais il est où mon prince charmant sur son fief d'esprit blanc là? Et elle est où la princesse? Hein, voilà. Et tout ça, comme le disait Platon avec le mythe d'Aristophane, c'est peut-être justement que du mythe et que du fantasme, tout ça, de l'illusion, hein, complètement construite. L'amour, alors la question qu'on pourrait se poser, c'est à partir de ce moment-là, est-ce qu'il faut que je renonce à l'amour pour effectivement pouvoir vivre en couple? C'est-à-dire, est-ce qu'il me faut perdre toutes mes illusions et accepter la banalité du quotidien, en fait? Je vis en couple parce qu'il y a des enfants, il faut reproduire l'espèce. Au niveau financier, c'est plus intéressant. Personne ne l'a dit, alors je me permets de le dire. Quand on se marie ou quand on se pacte, c'est bien pour les impôts. Enfin, vous, je ne sais pas, mais moi, ça a joué quand même un rôle, c'est certain. Voilà, je calcule ma feuille d'imposition. Donc voilà. Et je crois que vraiment le banquet est intéressant parce que Platon termine en disant mais en fait l'amour c'est quand même un sentiment qui nous meut et qui doit nous mouvoir vers quoi? Vers la vérité, c'est-à-dire vers quelque chose qui est capable de nous apporter à nous-mêmes la complétude. C'est-à-dire ne pas aller chercher la complétude dans l'autre, mais aller chercher la complétude dans le savoir, dans la connaissance. Et on l'a dit, c'est ce qui va amener Platon à développer quand même une philosophie extraordinaire autour de l'amitié. La philia, l'amitié, c'est quelque chose d'absolument essentiel parce que, et on a eu du mal à distinguer ce qui était de l'ordre de l'amitié, de l'ordre de l'amour ou du couple, mais qu'est-ce qui peut distinguer l'amitié du couple tel qu'on le conçoit, romantique? C'est que les amis ne manquent de rien.
Je ne vais pas demander à mon ami de venir combler les manques qui sont les miens. Je ne jouis de l'amitié ou je ne jouis de l'autre que parce qu'il est ce qu'il est et parce qu'il m'accepte pour ce que je suis. Il n'y a pas de demande. En d'autres termes, je utilise un autre terme, il n'y a pas de dépendance. Dépendance affective. Et c'est pour ça que les amitiés sont des fois tellement solides, tellement extraordinaires. Et on a l'impression qu'il y a une solidité qui est plus forte que dans celle du couple, des fois même. Alors du coup, le couple a-t-il encore un avenir? Je me dis, mais pour quelle raison est-ce qu'on a à ce point besoin d'aimer? C'est vrai, pourquoi aimer? Et d'être aimé. Pourquoi ne pas vivre seul? Voilà, le couple a-t-il encore un avenir? On éduque nos enfants, on parlait de l'éducation. On éduque nos enfants à quoi? Mais on les éduque à être indépendants. Voilà. Et tout d'un coup, quand on devient adulte, tout d'un coup, il y a quelque chose qui se déchaîne là, sur les réseaux, sur hein, il faut trouver l'autre. Voilà, il faut être l'autre. Les enfants, qu'est-ce que l'on fait? Dès que l'enfant a 2-3 ans, il faut qu'on lui apprenne à dormir seul. Tu ne viendras pas dormir dans le lit de papa et maman. Il faut que tu sois capable d'être seul. Il faut que tu sois autonome émotionnellement. C'est beau ça comme terme. Et tout d'un coup, à 18 ans, 20 ans, 25 ans, 45 ans, 50 ans, il y a tout qui explose. Il n'y a plus rien qui tient. Et là, ça ne choque absolument personne. Absolument personne. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans cette recherche de l'amour, qu'est-ce qu'il y a dans cette recherche du couple qui semble à ce point important? Il me semble qu'il faut aller les chercher dans les théories du développement et notamment dans les... Moi, j'irai la chercher dans la théorie du développement de Bowlby, où il va parler de la figure d'attachement. Voilà. Et où il dit, mais attendez, ne vous y trompez pas, vous avez beau élever vos enfants, en fait, vos enfants, vous les aidez parce que vous êtes là. C'est-à-dire, vous leur donnez beaucoup d'amour à vos enfants. Et c'est ça qui leur permet d'être eux-mêmes. Mais l'humain, sans une figure d'attachement, sans ce fait de pouvoir aimer et d'être aimé, c'est pas quelque chose de subsidiaire. C'est pas quelque chose qui pourrait être ou ne pas être. Bowlby va jusqu'à dire, c'est vital. Voilà. Si vous enlevez ça à l'humain, l'humain meurt. C'est pour ça que le couple a l'avenir. Parce qu'on n'est pas en couple pour la reproduction, même si. Parce qu'on aime aussi les enfants. On aime avoir des enfants. Il y a des désirs d'enfants qui sont fabuleux. Mais on est aussi en couple parce que nous sommes des êtres sociaux et on a besoin les uns des autres. Pas simplement intellectuellement, mais affectivement. Le tout, c'est de savoir comment vivre en couple. Parce qu'il y a des couples qui sont toxiques. Il y a des relations de couple qui sont toxiques, comme des relations d'amitié, du reste. Il y a des relations toxiques. D'où cette importance, je crois, de relire Platon, d'écouter Socrate, d'apprendre à savoir trouver véritablement la satisfaction de soi dans la connaissance, dans la capacité à penser par soi-même, à juger par soi-même, à être indépendant. Et à choisir en toute conscience d'être en couple avec la personne avec qui on est. Pour moi, ça porte un nom, ça. Et ça se gagne. C'est la liberté. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se pose tellement de questions. Parce que les couples n'est plus lié à la reproduction. C'est fini. Il y a quelque chose qui se termine. Du reste, ne serait-ce que d'un point de vue démographique. Prenez la Pologne. Il n'y a jamais eu aussi peu d'enfants. En France, ça commence à être vraiment une question qu'on se pose. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la famille n'est plus là pour la reproduction, si on ne vit plus avec quelqu'un pour élever les enfants, si on ne reste plus avec quelqu'un pour les enfants, ben ça veut dire qu'on reste parce qu'on le choisit. Et donc parce qu'on est libre, parce que ça nous apporte, parce qu'on est plus fort à deux, parce que l'autre participe au développement continuel de moi-même, parce qu'un développement de soi, ça ne se fait pas jusqu'à 25 ans, c'est un travail à vie, et les autres nous accompagnent. Des fois, les chemins, j'ai envie de dire, restent en parallèle, et puis des fois, ben, nos évolutions font qu'à un moment donné, c'est plus possible. Et la grande force de nos sociétés actuelles, c'est de permettre justement les séparations, permettre qu'on continue sa vie avec des gens qui nous conviennent, qui continuent à nous enrichir personnellement, qu'on continue à enrichir, en bref, qu'on se donne le droit d'être heureux. Voilà. Merci beaucoup.
Auparavant, si vous pouviez mettre les chaises en pile, en pile de...
Et hop,